Radio Kapi.
À la présentation du journal, Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Kapi pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres qui font l'actualité. Journée de l'enfant africain, des enfants victimes de guerre au Nord Kivu lancent un cri du cœur pour leur droit à la paix, à l'éducation et à la protection. Nous voulons aller à l'école, vivre en paix et être protégés, implore l'un d'eux dans un message chargé d'émotion. Justice, Constant Mutamba, poussé vers la sortie après l'autorisation des poursuites pour détournement des fonds. Avec 363 voix favorables, l'Assemblée nationale a donné son feu vert à des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, désormais contraint à la démission conformément à la Constitution. Kisangani, des opérations gratuites pour réparer les fentes labiales et palatines à l'hôpital du millénaire. Un soulagement pour de nombreuses familles. Le docteur Dani Loani, chirurgien et nutritionniste, est l'invité de ce journal. Il nous éclaire sur cette initiative médicale et ses retombées positives. Restez à l'écoute. Direction Goma. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, une centaine d'enfants touchés par les conflits armés au Nord Kivu ont élevé la voix pour réclamer une protection effective de leurs droits. Réunis ce lundi à Goma, ils ont lancé un appel fort aux autorités et à la communauté internationale pour garantir leur sécurité, leur éducation et leur avenir. La cérémonie commémorative a été organisée par l'ONG Programme d'appui à la lutte contre la misère, PAMI, avec le soutien de l'UNICEF et de la section de protection de l'enfant de la MONUSCO. L'événement a également servi de cadre à la vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits de l'enfant, souvent méconnus dans les zones en crise. Le point avec Élise Kavira.
Réunis autour du thème planification et budgétisation des droits de l'enfant, le seul vœu des enfants des Goma et territoires environnants reste celui de voir tout mis en œuvre pour garantir leur sécurité et protection. C'est comme le dit ici l'une d'entre eux.
La situation de l'enfant congolais des territoires de Rutshuru, Beni, Masisi, Nyiragongo et de la ville de Goma laisse à désirer. Nous lançons des cris de détresse et de secours au gouvernement et aux différents acteurs de protection de l'enfant. Nous avons droit à la protection car nous ne sommes pas acteurs, encore moins bénéficiaires de guerres auxquelles nous sommes soumis.
Le chef des projets à l'ONG PAMI déplore quant à lui le défi du moment dans leurs activités de protection des enfants. Jean-Marie Negoura.
En ces temps où on n'est pas vraiment bien à l'aise, les banques fermées et les forces gouvernementales un peu éloignées, on ne parvient pas à bien célébrer la journée parce que même les moyens sont limités. Les bailleurs de fonds n'ont pas la facilité de nous superviser.
Avec l'appui de la MONUSCO et de l'UNICEF, l'ONG PAMI encadre présentement près de 800 enfants affectés par les conflits armés. Parmi eux, plus de 200 ressortissants des forces et groupes armés.
En lien avec les tensions armées au Nord Kivu, à Rutshuru, des nouveaux combats ont éclaté ce lundi matin dans les territoires de Rutshuru. Les rebelles de l'AFC M23 se sont affrontés aux combattants du collectif des mouvements pour le changement, CMC, un groupe affilié au Azalendo sur les collines de Bumbasha et Bunkumba, situé à une dizaine de kilomètres de Mouisso, dont le groupement de Bukombo, chef féru de Buito. Selon des sources locales, des échanges nourris, des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus entre 6h et 9h, sémant la panique parmi les habitants. Plusieurs familles ont fui les zones des combats, se dirigeant vers les localités plus sûres de Bouambira et Mouesso dans le territoire voisin de Masisi. La situation sécuritaire reste extrêmement tendue dans cette région. La semaine dernière, déjà, des affrontements similaires avaient opposé le rebelle du M23 AFC au même milicien Wazalendo à Katiro. Un centre de santé avait été gravement endommagé par un engin explosif, blessant plusieurs civils et détruisant un réservoir d'eau vitale pour l'hôpital local. Assemblée nationale, Vital Kamerhe clôture la session de mars sur une note positive. C'est dimanche, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dressé un bilan qu'il qualifie de satisfaisant, mettant en avant une session marquée par une production législative soutenue, un contrôle parlementaire actif et des travaux approfondis en commission permanente. Dans son discours de clôture, il a également abordé la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, saluant les efforts de la diplomatie parlementaire en faveur du retour de la paix. Écoutons Vital Kamerhe dans cet extrait recueilli par Grâce Hamzati.
Vous avez droit à un repos mérité après 3 mois d'intense activité parlementaire. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Dieu nous l'a donné et nous allons le préserver. Quelle que soit la durée de la nuit, quel que soit le complot fomenté à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Comme nous l'avons souligné lors de nombreuses séances au cours de cette session, nous plaidons encore une fois, en regardant en direction du président de la République, de Madame la Première ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour que les salaires des fonctionnaires, des entreprises, des membres des entreprises publiques dans les territoires occupés soient payés régulièrement.
Kisangani, des sifflets pour lutter contre l'insécurité dans la commune de la Tchopo. Ce lundi, la bourgmestre de la commune de la Tchopo a lancé une campagne de sensibilisation originale en distribuant des sifflets aux ménages et aux commerçants des marchés municipaux. L'objectif, permettre à la population de donner l'alerte en cas d'agression ou de présence suspecte et ainsi dissuader les voleurs à main armée et autres délinquants qui troublent la quiétude des habitants. La sécurité est l'affaire de tous. Avec ces sifflets, chaque citoyen devient un acteur de la vigilance communautaire, a déclaré la bourgmestre lors du lancement de l'opération. Cette initiative s'inscrit dans une série des mesures locales visant à renforcer la sécurité de proximité dans cette commune de la province de la Tchopo. Un reportage signé Jacques Moukankolé.
Des 12 quartiers composant la commune Tchopo, le quartier du stade est le plus insécurisé. Accompagné de son adjoint, la bourgmestre de la Tchopo exhorte les ménages à faire usage du sifflet afin de dissuader les malfrats. Marianne Batamane.
Si dans une avenue, il y a 10 parcelles qui ont des sifflets et une fois, il y a une maison qui est attaquée, une fois on siffle, je pense que même les malfrats vont prendre fuite. Ce n'est pas autorisé aux civils d'avoir des armes, mais le moyen que nous puissions utiliser, ce sont comme des sifflets, même des casseroles.
Au marché municipal de la 11e avenue Tchopo, elle a tenu le même langage aux vendeurs et vendeuses du marché tout en leur remettant des sifflets. Les chefs de quartier sont appelés à poursuivre la sensibilisation dans leurs ressorts respectifs. Émile Barouti, chef du quartier Lubumbashi, est d'avis que les sifflets et les concerts de casseroles vont contribuer à dissuader les inciviques.
Ça peut avoir un impact parce qu'une fois que le voleur ou le bourreau attend le coup de sifflet, en tout cas il sera un peu décontenancé.
Outre les sifflets, Marianne Batamane a mis à la disposition de ses administrés un numéro vert de la police pour une éventuelle intervention en cas de besoin. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Direction Rome. La béatification de Floribert Buanacui, jeune martyr congolais de l'intégrité, a été célébrée hier dans la capitale italienne. Un moment fort pour l'Église catholique congolaise, représentée à cette occasion par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Dans son homélie, le cardinal a salué un événement porteur d'espérance pour la République démocratique du Congo. Il y voit un appel vibrant à tous les fidèles catholiques et à chaque citoyen de bonne volonté à s'engager davantage pour une société fondée sur la justice, la paix et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le témoignage de Floribert nous interpelle. Il nous invite à résister à la corruption et à défendre la vérité, même au prix de notre vie, a-t-il déclaré avec émotion. Le prélat a également annoncé que la Conférence épiscopale nationale du Congo Cinco s'apprête à définir de nouvelles orientations pastorale pour renforcer la lutte contre la corruption qu'il qualifie de gangrène de notre société. Un extrait de son intervention signé Blaise Makassi.
C'est un grand honneur pour l'Église qui est en République démocratique du Congo de voir encore l'un de ses fils reconnu comme exemple et modèle de l'honnêteté et de l'intégrité morale. La béatification de Floribert au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyr des sangs, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même.
Lors de la prière de l'Angélus, c'est dimanche depuis la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a rendu hommage à Floribert Bwanatshuyi, récemment béatifié. Le souverain pontife a salué le courage et l'engagement de ces jeunes Congolais au service de la justice, soulignant qu'ils représentent un modèle d'espérance et de bravoure pour la jeunesse de la République démocratique du Congo et de tout le continent africain. Kinshasa, le coup péré est tombé pour Constant Mutamba. L'Assemblée nationale a donné son feu vert à l'ouverture de poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Une décision lourde de conséquences. Conformément à l'article 166 de la Constitution, le ministre est désormais tenu de présenter sa démission avant toute action judiciaire. Dans le même temps, l'Assemblée nationale a opposé une fin de non-recevoir à une autre requête du même procureur visant Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et député UDPS. Le point avec Michel Kifindangoy.
À propos du réquisitoire du procureur près la Cour de cassation sollicitant des instructions judiciaires contre Nicolas Kazadi, l'Assemblée nationale n'a pas réservé une suite favorable à la demande de Firmin Vondé.
Les propos de l'honorable Nicolas Kazadi ont porté sur des faits et projets publics connus et ou documentés dont il avait déjà été entendu et pour lesquels la justice l'avait disculpé. Ainsi, le réquisitoire du procureur général n'emporte pas la conviction de la majorité des membres de votre commission.
Cependant, les députés ont voté à la majorité absolue pour l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, comme le souligne le rapporteur Jacques Joly.
La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Il est autorisé la demande au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga.
Constant Mutamba devra donc déposer sa démission afin de permettre à la justice de faire librement son travail, conformément à l'article 166 de la Constitution.
Selon la loi, si le ministre Constant Mutamba ne présente pas sa démission dans les 48 heures suivant l'autorisation de poursuite judiciaire à son encontre, il sera automatiquement considéré comme démissionnaire. Restons à Kinshasa, le bilan est lourd, 77 morts en l'espace de quelques jours. C'est le chiffre communiqué par le ministère congolais de l'Intérieur et de la Sécurité à la suite de deux catastrophes majeures survenues entre le 11 et le 14 juin. La première tragédie s'est produite près des Bikoro, dans la province de l'Équateur, où un naufrage a coûté la vie à de nombreuses personnes. La seconde a frappé la capitale Kinshasa, où des pluies diluviennes ont provoqué d'inondations, glissements de terrain et pertes humaines. Réunis en cellule de crise ce dimanche avec le service de gestion des risques et des secours, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les dispositifs de prévention et des réponses face aux catastrophes naturelles. La mobilisation est totale pour éviter que de tels drames ne se produisent, a déclaré un porte-parole du ministère. Un reportage signé Grâce Hamzati.
Selon le gouvernement, le bilan provisoire du naufrage survenu le 11 juin au large du lac Tumba dans la province de l'Équateur fait état des 48 corps repêchés et inhumés, 46 personnes secourues et 107 passagers portés disparus. Ces victimes étaient à bord des trois pirogues motorisées ayant chaviré à la suite des violentes perturbations météorologiques sur les lacs. Quant aux inondations à Kinshasa causées par les fortes pluies tombées dans la nuit du 13 au 14 juin, 29 décès sont recensés dans 8 communes, avec un plus grand nombre de victimes dans la commune d'Engaliema, précise le gouvernement, mais aussi des dégâts matériels importants et de nombreuses familles rendues sinistrées. Parmi les dispositions prises, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, parle d'un déploiement d'une mission interministérielle à Bikoro pour procéder à un état des lieux complet et coordonner la réponse humanitaire. Et pour Kinshasa, c'est l'inhumation des personnes décédées, l'assistance aux sinistrés et blessés et l'actualisation du plan de gestion des catastrophes. En outre, le gouvernement dit s'engager à renforcer les mécanismes de prévention des catastrophes et améliorer la résilience des communautés exposées aux risques climatiques.
Dans la commune de Bumbu, l'eau potable est devenue un luxe. Depuis plus de 6 mois, une grande partie de cette commune populaire est privée d'approvisionnement régulier en eau, plongeant les habitants dans une précarité quotidienne. Chaque jour, parents, enfants parcourent plusieurs avenues à la recherche de cette ressource vitale. Les forages devenus la principale source d'approvisionnement ne suffisent plus à répondre à la demande. Les bidons de 25 litres s'échangent entre 300 et 500 francs congolais, un coût qui pèse lourd sur les ménages les plus modestes. Nous buvons une eau que nous savons impropre, mais nous n'avons pas le choix, confie une mère de famille visiblement épuisé. Cette situation fait craindre une recrudescence des maladies hydriques, notamment chez les enfants. Face à cette crise, les habitants appellent les autorités à agir en urgence pour rétablir l'accès à l'eau potable et éviter une catastrophe sanitaire. Un reportage signé Plotin Yambenga.
L'approvisionnement en eau est devenu un casse-tête pour des milliers de familles vivant dans ces coins de la capitale. Chaque matin, ils prennent d'assaut les forages installés dans certaines parcelles pour acheter de l'eau. Cette mère de famille, rencontrée sur les sites, raconte son calvaire.
Nous achetons de l'eau au forage. Chaque jour, nous sommes contraints de débourser 10 000 francs congolais ou plus. C'est une situation difficile ici à Bumbu. Nous vivons sans eau depuis plus de 5 mois. Tout le monde est affecté, parents et enfants. Nous achetons de l'eau en sachet pour nos enfants.
La plupart d'entre eux fustigent le fait de recevoir régulièrement les factures alors qu'ils ne bénéficient pas des services de la régie des eaux comme il se doit. C'est le cas de cette jeune dame qui attend son tour d'épuiser l'eau des forages.
Il y a toujours grand monde. L'eau ne jaillit que les dimanches et d'autres dimanches, les robinets sont secs.
Cette situation perturbe l'équilibre financier dans plusieurs familles d'après les témoignages des parents.
Les difficultés d'approvisionnement en eau à Bumbu nous préoccupent au plus haut point. Outre l'argent de la ration, nous sommes obligés de prévoir également un peu d'argent pour acheter l'eau pour les travaux ménagers et au-delà des 12 000 francs congolais les jours.
Les efforts fournis pour avoir la version de la direction provinciale de la régie des eaux Kinouest ont été vains. Mais certains habitants attribuent la situation aux multiples travaux des chantiers routiers en cours dans la commune.
Actualité internationale. La Russie a annoncé ce lundi que les États-Unis avaient annulé la prochaine réunion bilatérale prévue dans le cadre des discussions sur la normalisation du fonctionnement de leurs missions diplomatiques respectives. Une décision inattendue alors que les deux puissances semblaient amorcer un timide rapprochement ces derniers mois. La prochaine réunion a été annulée à l'initiative des négociateurs américains, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, dans un bref communiqué. Il a exprimé l'espoir que cette interruption ne soit pas trop longue sans fournir davantage des précisions sur les raisons de cette annulation.
L'invité.
À Kisangani, l'hôpital du millénaire situé sur la 6e avenue du plateau Boyoma dans la commune de Makiso offre des interventions chirurgicales gratuites pour corriger certaines malformations, notamment les fentes labiales et palatines, une initiative saluée par de nombreuses familles. Pour mieux comprendre cette action médicale et ses retombées, nous recevons le docteur Dani Loani, chirurgien et nutritionniste à la polyclinique du millénaire. Il répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Docteur Dani, bonjour.
Bonjour.
Docteur, vous êtes en train d'opérer les personnes qui accusent de malformations, notamment les fentes labiales et palatines. Dites-nous, est-ce que ces opérations ont été précédées de la sensibilisation?
Merci beaucoup. Nous avons mené plusieurs études parce que nous n'avons pas commencé à opérer aujourd'hui. Les opérations ont commencé depuis 2010 et je prends la période de 2015 où notre hôpital, la polyclinique millénaire, a commencé à exister. Nous avons mené plusieurs études, mais aussi nous avons opéré beaucoup de malades ce qui nous rassure que nous avons mené une étude et il y a beaucoup de cas qui répondent jusqu'à aujourd'hui.
Pouvez-vous énoncer quelques statistiques?
Oui, je prends la période de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à plus de 1000 ou 1500 cas qui ont déjà été opérés ici, à l'hôpital polyclinique millénaire.
Et docteur, est-ce que on peut également rencontrer ces cas ou pas chez des adultes?
Bien sûr, il y a des adultes qui sont porteurs de cette malformation. Et les enfants, y compris les jeunes, donc ça se trouve chez toutes les tranches d'âge. Il y a les enfants qui naissent. Mais notre objectif, c'est à ces jours, c'est vraiment d'arriver à éradiquer tous les adultes qui sont porteurs de la fente labiale au niveau de la lèvre ou palatine au niveau du palais. Parce que nous voulons que ce soit les enfants qui naissent et dès qu'ils ont atteint l'âge idéal, qu'ils soient opérés. Mais nous ne voulons pas voir les adultes porteurs de fente labiale palatine.
Quelles sont les causes de cette malformation chez les enfants?
Merci, c'est une bonne question. Jusqu'à ces jours, les causes ne sont pas tellement connues, mais il y a les facteurs et les études qui ont été menées, qui sont en train d'être menées jusqu'à aujourd'hui, mais ça laisse à croire que, par exemple, une femme qui est enceinte, qui prend l'alcool ou qui prend le tabac ou d'autres femmes qui ne participent pas à la consultation prénatale qu'on appelle CPEN, qui sont privées de l'acide folique. Et dans la plupart des cas, les études qui ont été menées ont montré que ce sont ces femmes-là qui donnent souvent la probabilité des enfants avec fente labiale palatine. Mais d'autres aussi sont des facteurs génétiques héréditaires, hérités d'une famille X ou Y.
Et quelles sont les conditions à remplir pour être éligible aux opérations que vous faites?
Merci. Il n'y a pas de conditions parce que les soins sont gratuits. La prise en charge, elle est gratuite à toutes les dimensions. Donc, ce que les malades doivent faire ou les patients doivent faire, c'est de se présenter au niveau de l'hôpital pour qu'ils soient évalués. Une fois, il est à l'hôpital parce que nous faisons des soins globaux. Les soins globaux, c'est que les soins se font à plusieurs paliers. Il sera d'abord examiné par la nutrition pour voir s'il a un poids idéal qui lui permet d'être opéré. Et après ça, dès que la nutrition donne son accord que le malade remplit toutes les conditions, je pense que ce malade-là est déjà éligible pour être opéré. Et après l'opération, il va suivre d'autres programmes comme l'orthophonie, l'orthodontie, etc. Donc ce sont les critères que nous donnons. Mais sinon, toute personne portée de fente labiale et palatine est opérable et les soins sont gratuits.
Est-ce que vous êtes appuyé par une organisation quelconque?
Merci. Nous sommes appuyés par une organisation internationale caritative qui s'appelle Semaltren Africa. C'est lui le sponsor qui prend en charge tous les soins gratuits que nous donnons aux patients portés de fente labiale palatine.
Et quel est votre champ d'intervention?
Oui, nous sommes partout en RDC. Là, je vous parle du chef Kisangani, mais nous partons intervenir dans toute la RDC. Dans n'importe quelle province de la RDC où se trouvent les patients, si nous sommes informés, nous pouvons toutefois organiser. Nous avons les centres de traitement qui sont dans chaque province, dans chaque ville. Et nous avons des équipes mobiles qui circulent dans toute la RDC pour aller donner les sourires aux ses enfants ou à ses patients.
Et docteur, un mot aux parents dont les enfants sont affectés par cette malformation?
Oui, je dirais aux parents qui ont des enfants ou des personnes vivantes ou porteurs de fente labiale palatine que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un mauvais sort jeté comme ça se raconte dans la société, mais c'est une différence qui est normale, qui est due à la naissance. Et je pense que la solution est là parce que les soins sont gratuits. Je lance ces messages-là à ceux qui ne sont pas informés que si vous connaissez quelqu'un qui porte une fente labiale, soit palatine, labiale c'est au niveau de la lèvre et palatine au niveau du palais. Alors amenez-nous et faites-nous savoir pour que nous puissions venir en aide, porter les soutiens et les réparer afin qu'ils soient intégrés dans la famille et vivre correctement comme les autres.
Docteur Dany, merci.
Je vous remercie.
Le docteur Dany Loani, chirurgien et nutritionniste à la polyclinique du millénaire, s'est entretenu avec Jacques Moukonkolé au sujet des interventions chirurgicales gratuites actuellement offertes à la population. Ces opérations visent à corriger certaines malformations congénitales, notamment les fentes labiales et palatines, apportant ainsi un soulagement concret à de nombreuses familles. Ainsi s'achève ce jour-là sur Radio Capi, à la mise en onde de Mimi Kindou, à la supervision Pélékipé Lamondo et à la présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous via WhatsApp en suivant le lien disponible sur nos pages Facebook et X, anciennement Twitter. Pour plus d'articles et d'analyses, rendez-vous sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité à Radio Capi. Très bonne soirée à toutes et à tous.